Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Grand Ciel. Je suis Karine Delamère et j'ai la joie de vous présenter la revue de presse des hebdomadaires chrétiens. Vous pourrez le retrouver à la médiathèque diocésaine La Parenthèse à la Visitation à la Maison diocésaine. Nous prendrons comme titre « Pèlerin », « La croix du week-end », « Famille chrétienne » et « La vie ». J'ai la joie, j'ai même l'insigne honneur d'être accompagnée par Muriel Perrin sur les sujets liés à l'actualité. Muriel,
oui, merci. Bonjour Karine.
Et par notre inénarrable Liliane Dazin. Bonjour Liliane, vous allez voir, elle va nous faire quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui. Je vais vous expliquer tout à l'heure.
Muriel, bonjour Karine.
Bonjour Liliane. Muriel, on va commencer par l'actualité avec la vie, avec un sujet fort avec nous.
Oui, la vie, le numéro 3822 du 29 novembre au 5 décembre. Donc il est question de naître, d'un dossier de naître d'un don anonyme. Dans ce numéro, on nous dit que 70 000 Français ont vu le jour grâce au sperme d'un tiers. Alors certains rêvent de connaître leur identité. C'est ce que la loi pourrait permettre en 2019. D'autres ne le souhaitent pas. Naître d'un don anonyme soulève de nombreuses questions et met en avant des risques médicaux. C'est la levée de l'anonymat du don qui pose de graves questions éthiques que le législateur ne pourra pas occulter. Donc vous retrouverez dans ce numéro de nombreux témoignages qui montre dans cet article ces questions éthiques, nombreuses. Voilà. Et donc Bruno Sainteau intervient aussi, hein, il est enseignant au Centre Sèvres, et il explique les dangers de la levée de l'anonymat.
Voilà, un grand sujet. Alors un autre sujet assez étonnant qu'on ne dit pas souvent dans Famille chrétienne, le blues des mères.
Oui, alors dans le numéro 2133 du 1er au 7 décembre, il y a une étude qui a été publiée à l'occasion du Congrès des maires de France le 15 novembre. Et elle met en lumière, cette étude, ce qu'ils traversent, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans l'exercice de leur mandat. Alors, cette enquête montre que 48,9% des maires interrogés déclarent ne pas vouloir se représenter aux prochaines élections municipales de 2020. 74% des élites évoquent des difficultés personnelles. Ils sont épuisés physiquement et moralement par toutes les demandes personnel. Le mandat d'élu local affecte leur vie personnelle et leurs relations sociales et familiales. Ils déplorent une société devenue consumériste. L'exigence des Français est de plus en plus importante. Ils dénoncent un manque de moyens. Voilà, donc à retrouver dans ce numéro.
Eh bien, bon courage à nos élus locaux et on va passer après sur un dossier famille. Toujours.
Oui, alors il s'agit d'un dossier qui fait la une de ce numéro. Les mères de famille qui veulent en finir avec la culpabilité. Alors voilà, Famille chrétienne propose 7 clés pour les discerner et je vais vous les citer. Ah. Alors voilà, première clé, identifier sa culpabilité. Deuxième, se faire aider. La troisième clé, c'est dire les choses. Quatrième clé, trouver la bonne attitude. Cinquième clé, accepter ses limites. La sixième clé, demander pardon. La septième clé, aller de l'avant. Et il soulève le rôle du mari qui est primordial. Il doit rassurer son épouse.
Bon, ben ça c'est fait. Alors, les pèlerins, comment sortir de la crise des gilets jaunes?
Oui, alors pèlerin, le numéro 7096 du 29 novembre. Donc, nous ne pouvons pas ignorer ce sujet des gilets jaunes qui sont bien présents au milieu des ronds-points. Un mouvement populaire qui proteste contre la vie chère, le déclassement depuis des semaines et des semaines. Un spectacle qui est surréaliste et qui règne dans toute la France. De nombreux barrages s'installent dans une ambiance villageoise et c'est assez impressionnant et époustouflant. Ils ne se connaissent pas, mais ils s'unissent pour exprimer leur ras-le-bol. Ils réclament un dialogue, des mesures d'accompagnement. Les aides décidées par la France d'en haut doivent maintenant être débattues par la France d'en bas. Et c'est assez quand même spectaculaire de voir ce qu'ils vivent. Hier soir, j'ai assisté à un rassemblement au milieu du rond-point de BMW Carrefour, où ils sortaient leur matelas, visiblement, pour y passer la nuit. Et voilà, je suis assez retournée.
Merci Muriel. On va aller du côté de Liliane. Alors, je vous disais qu'elle allait faire quelque chose d'assez exceptionnel. Figurez-vous que nous avons reçu, en fait, nos journaux en retard. Donc, Liliane va vous en faire certains qui datent de la semaine dernière et certains qu'elle vient de recevoir ce matin, 10 minutes avant le début de l'émission. Donc, vous allez avoir quelque chose en direct. Donc, je vous prie de... Vous pouvez déjà applaudir parce que c'est assez exceptionnel. On va commencer avec La Vie, donc le nouveau qu'elle vient de recevoir, avec les manuscrits de la Bible, vrai ou faux.
C'est ça. Ça, c'est surtout depuis la découverte des manuscrits de Qumran,
qui en fait ont été découverts par des bédouins qui cherchaient des trésors antiques pour les vendre et qui sont tombés sur ces jarres. Et ils ont chargé un antiquaire de les vendre, il les a bien vendus, mais dit la vie, dès l'instant qu'il y a des découvertes de documents, on peut être sûr que les faux arrivent tout de suite. Donc il y a eu en effet des faux. Alors on le reconnaît maintenant parce qu'on dispose de techniques telles que, par exemple, on s'aperçoit que l'encre est brillante. Ah oui. Donc c'est forcément un faux. Ou que les lettres ont été refaites sur d'autres lettres. Donc c'est forcément un faux. Ceci dit, ça ne veut pas dire que toute la Bible est fausse. Hein. Ça veut dire que... Mais ça, c'est général, c'est pas seulement pour la Bible. Hein. Alors, il y a eu un gros ennui avec ça, c'est qu'à Washington, par exemple, il s'est ouvert à Washington un musée. Un musée pour pouvoir exposer, justement, tous les manuscrits. Et puis, en 2017, et puis, on s'est rendu compte qu'il y a des chercheurs qui avaient trouvé que non, là-dedans, il y avait des faux. Eh bien, c'était vrai qu'il y avait des faux. On a retiré tout ça du musée de Washington. Ah, oui. Alors, si on veut se faire une idée, il y a quelque chose de très bien qui a été fait par la vie. La vie a réuni historiens, archéologues, biblistes, exégètes. Ils ont partagé leur savoir. Et puis, ils ont fait un livre pour les lecteurs, pour leur transmettre des clés de lecture de la Bible. Alors, ça, c'est un hors-série, la Bible, 84 pages, en vente chez votre marchand de journaux ou à commander.
Dans la rubrique histoire.
Voilà pour la Bible.
Merci beaucoup, Liliane.
C'est intéressant, ça.
Ah oui, clairement. Oui. On va aller sur Pèlerin. Alors, le Pèlerin de la semaine d'avant.
Eh oui, le numéro 7, 96, comme celui de Muriel. Alors, un article concernant l'Avent. La seule urgence, c'est de vivre le temps présent. Hein? Il faut relativiser les petits soucis et privilégier la qualité des relations.
Dit-elle avec un magnifique sourire.
Pour nous, il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Alors, quand Jésus dit « Restez éveillés et priez », c'est maintenant. Hein? L'importance de la prière quotidienne à la maison ou ailleurs. On peut très bien, par exemple, prier dans le métro. Et puis, surtout, accueillir l'autre. Alors, il y a le journaliste qui dit « Tout le monde n'est pas Sœur Emmanuel ou l'abbé Pierre, hein? Mais accueillir l'autre, simplement accepter la parole de l'autre, même si elle me gêne. Hein? Mm-hmm. Ça me fera réfléchir. Mm-hmm. Bon. » Et alors, il dit, l'auteur de l'article, référez-vous à Sainte Thérèse, n'est-ce pas, qui disait « Persévérez rien que pour aujourd'hui ».
Oui, c'est déjà bien.
C'est déjà bien.
D'accord, on va passer sur la croix du week-end avec cette question « Qui sont les prophètes ?»
Voilà, alors le prophète, c'est le porte-parole c'est le porte-parole de Dieu avant la naissance de Jésus.
Ah, d'accord.
Bien sûr. Hein. Et le dernier, évidemment, a été Jean-Baptiste. Hein. Il clame l'amour de Dieu pour son peuple, il console les plus faibles, et puis ils essaient de remonter le moral, en particulier quand le peuple juif a été emmené à Babylone, et ils incitent inlassablement à espérer et à relever la tête. Mmh. Voilà.
Et on va finir sur Famille chrétienne, donc admirer l'artiste, parce que là c'est vraiment du direct en direct.
Oui, allons-y. Je vous lis l'article. Ce 8 décembre 2018 à Oran, est à marquer d'une pierre blanche dans l'histoire de l'Église. Une béatification a lieu en terre d'islam. Loin de tout triomphalisme, les organisateurs entendent signifier qu'une vie ordinaire, au milieu de frères différents de soi, vaut la peine d'être vécue. Ces bienheureux étaient simplement membres d'une petite église catholique en Algérie qui a tiré les conséquences naturelles de son choix d'être pleinement dans ce pays, écrivent les évêques. Ce propos, l'intellectuel Boualem Sansal le nuance. Pourtant, le témoignage des 19 martyrs rend actuel l'engagement ultime de saint Augustin, évêque dans le nord-est du pays, qui mourut lors du siège de sa ville par les Vandales en 430. Or, celui qui demeure au milieu de son peuple, s'exposant à la persécution, y compris à l'assassinat, réalise une œuvre plus méritoire que le martyr lui-même, écrivit l'auteur des Confessions. Cette formule sert de point d'appui aux constitutions des sœurs augustines missionnaires au sein desquelles prononcèrent leurs vœux deux bienheureuses parmi les 19. Là, précisément, réside la singularité de ces 19 vies données qui, un quart de siècle après les faits, portent divers fruits des deux côtés de la mer Méditerranée. C'est signé Guilhem Darny.
Merci beaucoup, Liliane. Donc, à retrouver dans le Famille chrétienne qui vient de paraître, que vous retrouverez
c'est-à-dire le numéro 6821.
Voilà, vous retrouverez à la parenthèse.
Du 8 au 14 décembre.
Merci beaucoup, Liliane. On va partir sur la rubrique culture avec Pèlerin, avec clin d'œil pour Muriel, les gilets jaunes en une. Hein. Pèlerin qui donne 3 P, donc c'est-à-dire un grand coup de cœur pour le film Pupille de Jeanne Henry. Alors, c'est les 3 premiers mois de la vie de Théo. Alors Théo, en grec, ça veut dire Dieu. Hein. C'est un bébé qui est né sous X. Et on va le voir de sa naissance jusqu'à son adoption par une maman célibataire. Et durant ces 2 heures, nous dit Pèlerin, la cinéaste déroule la fragile et bienveillante chaîne de vie qui se met en place pour que Théo, pas un instant, ne soit sevré de regards, de paroles, d'attention, en un mot d'affection. C'est un film admirable et bouleversant, nous dit Pèlerin. Et puis, toujours dans Pèlerin, vous trouverez le dossier réalisé sur les 70 ans du jour du Seigneur, la fameuse messe télévisée, la plus ancienne émission au monde. Vous découvrirez les coulisses du tournage de la messe télévisée du 7 octobre dernier dans le diocèse de Rouen. Ensuite, on va aller sur la croix du week-end, celle du 2 décembre, replongée dans vos classiques. Alors ça, je trouvais que c'était une excellente idée de ce journal de nous proposer une recension des Noëls dans la littérature. Alors, vous connaissez Charles Dickens, les contes de Noël, donc il nous résume, il nous rappelle ce que c'est, il nous rappelle ces fameuses contes comme Le Carillon, Le Grillon du Foyer, il nous rappelle Alphonse Daudet, avec les fameuses 3 messes basses, pour ceux qui l'ont lu, c'est mais juste un régal, avec Dom Balaguer qui expédie les messes de Noël pour profiter des réveillons, voilà, alors il boira et mangera tout ce qui tant qu'il mourra pendant la nuit, la sentence est connue, hein, vous savez, les fameuses 300 messes pendant un siècle à dire. Mais franchement, c'est à lire et à relire. Vraiment, quelle écriture et quelle saveur. Et puis, il y a un autre auteur, Christmas Pudding d'Agatha Christie. Ça, c'est pour ceux qui aiment un petit peu les romans policiers.
Oui,
et la fameuse suédoise, Lagerlof. Bon, alors, ça ne veut dire rien du tout, mais si vous avez lu...
Lagerlof, aussi.
Voilà, Le merveilleux voyage de Nils Holgersson. Elle avait écrit le livre de Noël avec plein de contes. Et c'est vraiment... Mais c'est plein de récits qui célèbrent cette fête, en lien avec les légendes scandinaves, bien sûr, mais avec des patrimoines chrétiens, avec de la culture populaire. C'est à lire et à offrir. Et ça, toutes ces recensions, vous les retrouverez dans La Croix du samedi et du dimanche de décembre. Famille chrétienne, mais pas comme Liliane. Moi, c'est celui du 1er au 7 décembre. Alors... J'ai trouvé intéressant parce qu'il valorise le nouvel attrait du chant grégorien, ce qu'on appelle le plein chant, avec un article qui montre que les paroisses et les jeunes se le redécouvrent et se l'approprient. Pourtant, c'est un style musical qui est quand même très vieux, il y a plus de 1000 ans. Mais vraiment, les enregistrements cartonnent, nous dit Famille Chrétienne, et ce plein chant continue de mener à Dieu, comme en témoigne cet artiste de rue, qui a commencé à chanter le plein chant, qui a voulu comprendre d'où ça venait, qui a poussé à la porte d'une église. Baptême, conversion, mariage, création d'une chorale de chant grégorien, tout ça, c'est dans Famille Chrétienne. Ensuite, la vie. Donc moi, j'ai pris la vie fin novembre, hein, puisque Jeanne n'avait pas reçu encore. Je relève pour vous ce très bel article de Johan Labrousse-Ababin dans la rubrique culture, parlant de 2 bandes dessinées qui confrontent l'innocence de la jeunesse à la Seconde Guerre mondiale. Il y a le nouvel album de Spirou, et la première BD de Philippe Collin, l'animateur radio. Et tous les deux racontent 2 jeunesses en 39-45. L'un avec Spirou qui va se retrouver confronté à l'invasion de Bruxelles par les Allemands. Et l'autre avec Philippe Collin qui va raconter l'histoire de son arrière-grand-père qui a été un malgré nous. C'est les Alsaciens obligés de rentrer du côté allemand, sinon leur famille était assassinée. Et donc voilà, et il redécouvre ce grand-père auquel il n'avait pas voulu parler, pensant que c'était un traître, et en fait ce n'était pas le cas. Et comment la jeunesse a dû réagir. Donc voilà, vraiment à découvrir dans la vie. Et puis, là, je trouve que c'est vraiment intéressant. Vous savez qu'il y a une série scandinave qui sort en ce moment qui s'appelle « Au nom du Père », qui a été écrite par le même auteur que Borgen, qui a été une série qui a été tout à fait formidable. Les familles chrétiennes nous proposent les avis de 3 protestants français qui l'ont vu en avant-première. Alors, les réactions sont assez mitigées. D'abord, ils ont observé des décalages. Il n'y a pas en France une seule et unique église protestante, contrairement à l'église d'État qui existe en Scandinavie. Ensuite, il n'y a pas d'élection comme en politique, comme il peut y avoir décrit dans le film, alors que ce n'est pas le cas en France. Et puis, surtout, ils ont assez peur qu'il y ait une forme d'incompréhension de la part de ce qu'il se vit véritablement en France. Par exemple, il n'y a pas de paroisse, on ne peut pas la fermer, il faut que les gens décident entre eux. Donc voilà, donc ils sont assez inquiets sur cette fausse idée du protestantisme, en tout cas, ce n'est pas ce qui se vit en France. Et ça, vous pouvez le retrouver dans Famille Chrétienne. Voilà, Liliane, Muriel, nous avons fini pour ce mois-ci. Vous souhaitons tous un très joyeux Noël sur Radio Grand Ciel et à l'année prochaine.